Chapitre 10. Horos l'appela le lendemain matin. Les résultats des examens étaient excellents. Peggy était sélectionnée. Comme prévu, elles se rencontrèrent pour signer le contrat. La jeune femme supposa que cette comédie avait pour unique fonction de rassurer les émigrantes. Le document comportait un article par lequel elle acceptait de confier l'éducation de son enfant à ses employeurs au cas où, par accident, elle deviendrait mère durant le temps de son engagement. Horos lui expliqua qu'il s'agissait d'une précaution destinée à la dégager de toute responsabilité au cas où le bébé serait anormal. « Ainsi, vous ne serez pas forcé de l'élever, insista-t-il. Il sera placé dans une institution où l'on pourvoira à ses besoins. Ne vous alarmez pas, ce n'est qu'une éventualité imaginée par des juristes paranoïaques. Le cas ne s'est jamais présenté. » Peggy haussa les épaules et, imitant en cela le comportement d'Ornella, affirma qu'elle n'avait nullement l'intention de tomber enceinte. « Vous avez tout de même entendu parler des préservatifs, non ? » ricana-t-elle. « J'en trouverai sur place ? Ou bien est-ce que je dois prévoir d'en emporter une pleine valise ?» L'entrevue prit fin avec la remise du téléphone spécial grâce auquel on lui communiquerait le lieu et l'heure du rendez-vous. « Voilà, soupira Horos, en rangeant les papiers dans son cartable de cuir fatigué. Nous ne nous reverrons plus. Je vous souhaite un bon voyage et un excellent séjour au centre de recherche. » Peggy le regarda s'éloigner, un nœud à l'estomac. Désormais, Yumiko savait la date du départ imminente. Déguisée en chat siamois, elle avait régulièrement espionné les conversations de Peggy Mitchum et d'Evgeny. Elle passait beaucoup de temps dans la résidence, pelotonnée sur le balcon de l'américaine, l'oreille aux aguets. Personne ne faisait attention à elle. Grâce à la sensibilité auditive du petit félin, elle était capable d'entendre à travers les murs. Ce stratagème lui avait permis d'en apprendre assez pour bâtir un plan. Elle serait forcée d'improviser, mais cela ne l'effrayait pas. Ses nombreuses missions l'y avaient habituée. L'étrange téléphone extraterrestre sonna 48 heures plus tard, alors que le crépuscule s'installait sur Sunset. Collée à la baie vitrée, Yumiko entendit Peggy répéter « Cette nuit, Sierra Valdez, kilomètre 134, à 2 heures du matin. J'y serai. » Yumiko n'avait pas besoin d'en savoir davantage. Mettant à profit la souplesse du chat dont elle avait pris l'apparence, elle bondit d'un balcon à l'autre pour regagner le rez-de-chaussée. Là, elle se faufila dans un bosquet, le temps de recouvrer forme humaine, enfila les vêtements qu'elle y avait cachés et quitta la résidence pour grimper dans sa voiture. Elle consulta le plan des environs à la lueur du plafonnier. Sierra Valdez était un ancien hameau mexicain situé à la périphérie de L.A. Il s'agissait d'un canyon débouchant sur une étendue désertique. Un ancien camp militaire désaffecté. Cela représentait 3 bonnes heures de route. Elle démarra. L'imminence de l'action excitait les nanoparticules, déclenchant des comportements aussi erratiques qu'incongrus. Ainsi, ses ongles se mirent-ils à pousser à vue d'œil, s'allongeant de 5 centimètres en l'espace d'une minute. Elle dut multiplier les ordres péremptoires avant d'obtenir que les éléments charriés par son sang se tiennent enfin tranquilles et économisent leur énergie en vue des prodiges qu'il leur faudrait bientôt accomplir. Yumiko vida son esprit et se concentra sur la route. Dès qu'elle fut sortie de la banlieue, le paysage changea, alternant mornes collines et plaines pelées envahies par le sable. Elle longea une orangerie où des Mexicains travaillaient encore à la lueur de gros projecteurs. Puis les lotissements s'espacèrent. Dès qu'on approchait du désert, le tissu urbain se défaisait. Elle traversa une ville fantôme composée de maisons préfabriquées, comme il en avait poussé un peu partout au lendemain de la guerre. Une cité jadis habitée par les GI affectés à Sierra Valdez. Les baraques déglinguées, ensevelies sous la poussière, installaient une ambiance sinistre. Un coyote vautré sur une véranda regarda passer la voiture sans bouger d'un poil. Yumiko consulta les bornes meilières. Elle espérait être la première sur les lieux. Son plan était simple. Elle avait prévu d'intercepter l'une des filles et de prendre sa place. Les nanoparticules se chargeraient de remodeler son visage de manière à fabriquer une ressemblance acceptable. À partir de là, elle improviserait. Elle supposait que les recruteurs avaient choisi l'endroit à cause de la vieille piste d'envol. Peut-être également pour donner un tour officiel à ce départ nocturne qui aurait pu effrayer certaines recrues. Elle s'arrêta à 2 kilomètres du camp et grimpa au sommet d'une colline pour reconnaître les lieux au moyen de puissantes jumelles militaires conçues pour la vision de nuit. Il lui fallut moins d'une minute pour repérer un groupe d'humains au centre du camp. Le comité d'accueil était déjà en place. Les premières candidates n'allaient pas tarder à pointer le bout de leur nez. Elle redescendit, ouvrit le coffre de sa voiture pour en tirer une tenue de camouflage d'allure officielle, constellée de badges de chevrons, et se coiffa d'un casque blanc affichant la mention « Military Police ». Puis elle recouvrit le véhicule au moyen d'une bâche de camouflage qu'elle fixa solidement au sol par des crochets en tire-bouchon. De toute manière, il s'agissait d'une voiture volée. La police scientifique ne pourrait y relever aucune empreinte dangereuse puisque les nanoparticules avaient été programmées pour générer chaque matin au bout des doigts de Yumiko des crêtes digitales différentes de celles qu'elle portait la veille. Déguisée en sergent d'infanterie, la japonaise empoigna une grosse torche électrique, une planchette supportant une liste de noms fantaisistes, une pelle pliable et se planta au bord de la route. Elle avait tout à fait l'allure d'une sentinelle chargée de filtrer les visiteurs. Elle espérait simplement que Peggy Mitchum ne serait pas la première à se présenter. Si c'était le cas, il faudrait attendre la prochaine voyageuse. En effet, Yumiko ne tenait pas à affronter son ennemi intime au bord de la route dans de mauvaises conditions. Le duel final serait pour plus tard. Pour le moment, l'unique objectif était de prendre place à bord de la navette sans éveiller les soupçons des recruteurs. Elle n'eut pas à patienter trop longtemps. Une Toyota jaune surgit des ténèbres. Yumiko se planta aussitôt au milieu de la route dans une pose martiale, agitant sa torche pour inviter la conductrice à s'arrêter. « Bonsoir, madame, » lança-t-elle avec cette politesse menaçante qui est le propre des militaires. « Contrôle d'embarquement. Pouvez-vous descendre et me présenter vos papiers d'identité ?» La fille clignait des yeux éblouis. « On m'attend, bredouilla-t-elle. Je m'appelle Poppy Warlow. »«
Votre nom figure effectivement sur la liste, madame, » mentit Yumiko. « Mais je dois vous passer au détecteur. C'est la procédure. N'y voyez aucune attaque personnelle. »«
D'accord, d'accord, » grogna Poppy Warlow en débouclant sa ceinture de sécurité. « Ce que vous pouvez être méfiant tout de même. » Yumiko la frappa à la tempe dès qu'elle posa le pied sur l'asphalte. La fille s'écroula comme une vache à l'abattoir. Yumiko la tira dans le fossé et lui brisa la nuque. Après quoi, elle explora le contenu de ses poches, récupérant l'argent, le porte-carte. Puis, braquant le halo de la torche sur le visage de la morte, elle la fixa durant 30 secondes, afin de permettre aux nanoparticules de mémoriser les traits de sa victime. Cette précaution observée, elle entreprit de recouvrir le cadavre de terre jaune en s'aidant de la pelle pliable, puis disposa de grosses pierres sur le tertre. Ce camouflage ne résisterait pas longtemps à la curiosité des coyotes, mais le temps lui faisait défaut. L'endroit n'était guère fréquenté. Elle espérait qu'il s'écoulerait 2 semaines au moins avant qu'un randonneur ne découvre le corps. À ce moment-là, il ne sera plus identifiable, songea-t-elle en se débarrassant du treillis. Elle ouvrit la valise posée sur le siège arrière et enfila les vêtements de sa victime. Ils étaient bien trop larges, mais elle ordonna aux nanoparticules de procéder aux ajustements nécessaires. Des douleurs fulgurantes la traversèrent pendant 2 minutes. Quand elle cessa de souffrir, elle ressemblait à Poppy Warlow comme une sœur jumelle. Elle s'examina dans le miroir de courtoisie et se trouva l'air d'une paysanne suédoise engraissée au lait de vache. Elle détestait être blonde. Elle n'avait jamais compris la fascination des blanches pour les cheveux jaunes. Cela faisait tellement artificiel.
Des picotements désagréables assaillaient ses joues et son front, comme si elle souffrait d'un coup de soleil. Elle se glissa au volant, se cala dans le siège et ferma les yeux. Dans 5 minutes, elle se sentirait mieux. Peggy Mitchum ralentit en apercevant la Toyota immobilisée sur le bas-côté de la route. La lumière du plafonnier lui permit de distinguer une grande fille blonde, aux traits nordiques, qui semblait dormir, la nuque calée dans l'appui-tête. Un instant, elle fut tentée de s'arrêter pour lui demander si tout allait bien. « Allons, se dit-elle, ne joue pas à l'infirmière. Elle va de toute évidence au même rendez-vous que toi, et elle panique à l'idée de faire le grand saut dans l'inconnu. Elle est en train de se demander si elle doit faire demi-tour et restituer le fric. Dans 1 minute, elle va parvenir à la conclusion qu'elle n'aura jamais une autre occasion d'empocher 1 million de dollars et reprendra la route. » Peggy accéléra. Elle se sentait elle-même plutôt nerveuse. Les révélations du nain ne contribuaient pas, il est vrai, à instaurer un climat de confiance. La grille d'accès de l'ancien camp militaire apparut soudain dans le pinceau des phares. La jeune femme nota qu'un drapeau neuf claquait au vent et qu'on avait repeint 12 de baraquements afin de donner au terrain désaffecté une allure plus officielle. À la faveur de la nuit, cette petite mise en scène pouvait faire illusion, pourvu toutefois qu'on n'y regardât point de trop près. Une femme entrevit, arborant des galons de caporal, surgit de nulle part, une liste à la main. Peggy dut décliner son identité. « Suivez la bande blanche peinte sur le sol, » lui expliqua la GI. « Elle vous conduira au parking voyageur. Vous laisserez votre véhicule là, les clés sur le contact. N'ayez aucune crainte, on s'en occupera. Quand ce sera fait, suivez les flèches jaunes jusqu'à la zone d'embarquement. » Peggy hocha la tête et franchit le seuil du camp. Elle n'eut aucun mal à trouver le parking. Il était vide. Elle se gara, coupa le contact et resta immobile dans l'obscurité. La Toyota entreaperçue sur la route ne tarda pas à la rejoindre. L'inconnu l'imita, hésitant visiblement à descendre. Peggy décida de prendre l'initiative. C'était le moment ou jamais de nouer des contacts qui pourraient se révéler utiles plus tard. Empoignant son sac de voyage, elle mit pied à terre et s'avança vers la Toyota. La fille s'ébroua en la voyant approcher et se décida enfin à remuer. « Salut, fit Peggy. Moi, c'est Peggy Sue Mallory. Je viens du Texas. Drôle d'endroit, hein? Ça fout un peu les boules. »« Ouais, grogna la jeune femme. Je m'appelle Poppy Warlow. Je suis du Wyoming. J'ai hésité à venir. C'est glauque, ce truc, non ?» Elle paraissait à cran, sur le point de tourner les talons et de s'enfuir. Peggy entreprit de la calmer. « Je trouve aussi, murmura-t-elle. Mais ce n'est pas parce qu'on touche une paye de star qu'il faut jouer les chochottes. Allons-y. Au bout du compte, ça se révélera peut-être amusant. De toute manière, je m'ennuyais tellement à LA que j'aurais fini par faire une connerie. » « Moi aussi, » avoua précipitamment Poppy. « Le boulot de merde, pas d'avenir, des mecs tous plus tarés les uns que les autres. Je connais ça. Puisqu'on n'a pas grand-chose à perdre, » conclut Peggy, « allons-y avec le sourire. » Elle regarda autour d'elle pour localiser les fameuses flèches blanches. Les panneaux indiquaient la piste d'envol. Elle remarqua que les lézards du tarmac avaient été grossièrement obturés avec du ciment. Elle frissonna. Dès que la nuit tombait, le désert se changeait en chambre froide. À 100 mètres du parking, une batterie de projecteurs délimitait une zone où s'agitaient des silhouettes en uniforme. Le comité d'accueil, pensa-t-elle, l'estomac noué. Elle se mit en marche, Poppy Warlow sur ses talons. Elles furent accueillies par des hôtesses de l'air souriantes qui les poussèrent vers un buffet en plein air, où les attendaient des piles de beignets, de friandises et des pots de café brûlants. « Détendez-vous, » répétaient les hôtesses, « tout se passera bien. Il y a 6 mois, nous étions à votre place, en train de nous ronger les ongles. À présent, nous ne voudrions revenir en arrière pour rien au monde. » Sanglées dans des uniformes dessinés par un grand couturier, elles modulaient ce message avec quelques variantes, y ajoutant des détails destinés à le personnaliser. Peggy ne fut pas dupe. Il était facile de deviner qu'elle récitait une leçon apprise par cœur. Cette rengaine parut cependant rassurer Poppy, qui dès lors recommença à sourire. Dans le quart d'heure qui suivit, le parking se remplit. Les filles arrivaient. Bientôt, la nuit se peupla de gloussements nerveux et de bavardages. Les hôtesses firent circuler des gobelets de gin tonic. L'alcool contribua à alléger l'atmosphère. On signala aux postulantes qu'une dizaine d'ordinateurs, disposés à l'écart, leur offraient la possibilité de se connecter à la banque de leur choix pour vérifier que les transferts de fonds promis avaient bien été effectués. Le troupeau se précipita, pianotant avec fièvre code d'identification et mots de passe. Peggy les imita. 3 secondes plus tard, elle recevait confirmation du virement. Tout était en règle. Cédant le clavier à Poppy Warlow, elle remarqua qu'aucun homme n'avait encore montré le bout de son nez. Les organisateurs avaient sans doute jugé plus habile d'installer une atmosphère de sorority, comme dans ces clubs féminins, parfois très fermés, des universités américaines. L'une des hôtesses empoigna un micro et annonça que l'heure du départ approchait. Un appareil allait se poser. L'embarquement aurait lieu comme dans n'importe quel aéroport. Puis elle récita la liste des films que les passagères auraient la possibilité de visionner une fois calés dans leur siège. Un claquement retentit. Les projecteurs s'allumaient pour baliser la piste. 10 minutes plus tard, un grondement sourd annonça l'arrivée de l'appareil. L'avion se posa. Il s'agissait d'un Learjet modifié, ne comportant ni immatriculation ni nom de compagnie. « Ce n'est sûrement pas avec ça que nous gagnerons la station orbitale, » se dit Peggy. « On l'a choisi pour nous rassurer. Le véritable départ aura lieu ailleurs. » Elle comprit qu'on allait les droguer, si ce n'était déjà fait. Une fois endormis, on les transborderait dans la véritable navette. De cette manière, à aucun moment, elle ne pourrait soupçonner la nature réelle de leur destination. « On reste ensemble, hein ?» gémit Poppy en se cramponnant à son bras. « Bien sûr, » la rassura Peggy. Sous la conduite des hôtesses, elles gagnèrent en bon ordre la passerelle qui venait de se déployer. L'intérieur de l'appareil était luxueux. Cuir et loupe d'or. Des exclamations fusèrent, admiratives. La plupart des filles avaient l'élocution pâteuse et le geste approximatif. Beaucoup gloussaient, telles des collégiennes bourrées d'extasie. Elles s'effondrèrent au creux des sièges, l'œil vitreux. Pour sa part, Peggy se sentait la proie d'un vertige euphorique. Elle ordonna aux nanoparticules de corriger cette dérive. Cette précaution prise, elle s'appliqua à jouer la comédie de la perte de conscience progressive et s'affala sur son siège en souriant avec béatitude. Il convenait de donner le change aux hôtesses qui, soudain dépouillées de leur masque d'affabilité, observaient les passagères d'un œil froid. Au bout d'une dizaine de minutes, les conversations s'éteignirent. Les voyageuses, qui n'avaient pas déjà cédé au sommeil, dodelinaient de la tête en souriant aux anges. Certaines chantonnaient d'une étrange voix de petite fille. Peggy ferma les yeux et s'abandonna. Les hôtesses remontèrent la travée pour boucler les ceintures des passagères inconscientes. Une voix d'homme s'éleva. « C'est prêt ?»« Oui, commandant, » répondit la plus âgée des hôtesses. « Bien, bougonna le pilote. Sanglez-vous, on décolle. On est en retard de 3 minutes sur le programme. On ne peut pas se permettre de rater la fenêtre de tir. » Des secousses ébranlèrent l'appareil. On décollait. Elle continua à feindre le sommeil. Le silence régnait dans la cabine. Après 1 heure de vol, l'avion amorça sa descente. Comme l'avait prévu Peggy, une équipe muette et diligente envahit l'appareil pour transborder les passagères. Chaque jeune femme était extraite de son siège et déposée sur une glissière gonflable, analogue à celle utilisée pour les évacuations d'urgence. Un deuxième commando d'infirmiers les réceptionnait au terme de la glissade pour les emporter vers un autre moyen de transport. Quand vint son tour, Peggy résista à la tentation d'ouvrir les yeux. Elle aurait donné cher pour savoir à bord de quel engin on les embarquait. Une navette spatiale? Une soucoupe volante? Elle espéra que ceux qui la manipuleraient ne percevraient pas les battements précipités de son cœur. Enfin,
Au terme d'une longue déambulation, elle fut réinstallée au creux d'un fauteuil à côté de Poppy Warlow. 20 minutes plus tard, l'engin s'arracha du sol dans un tonnerre de réacteurs. Il était inutile d'appartenir à la NASA pour comprendre qu'il ne s'agissait nullement d'un avion de ligne.